Regard intime, une émission proposée par Raph.
Bonjour, alors je suis en compagnie de Bruno Beuglin, de Romain et Gabriel Laval, donc de la compagnie du théâtre du désordre des esprits pour la première émission de Regard intime. Alors tout d'abord, bonjour. Je voudrais d'abord que vous puissiez vous présenter rapidement votre travail et votre théâtre, hein, votre compagnie, Bruno Beuglin.
Bon, alors d'abord, le nom de la compagnie exacte, c'est Théâtre du désordre des esprits -Compagnie Bruno Beuglin. Ça, c'est pour la DRAC. Moi, je fais du théâtre depuis 1967. D'abord dans une maison des jeunes à Gerland. Le théâtre s'appelait la Compagnie de la Mouche, du nom du quartier. Ensuite, à l'Eldorado. On a changé de nom, on s'est appelé le Nouveau Théâtre. Et puis le théâtre de l'Eldorado a été rasé. Et le Nouveau Théâtre a fait faillite. Il a fallu trouver encore un dernier nom au théâtre, et je l'ai trouvé chez Rimbaud dans Désordre des esprits. Merci Rimbaud.
Je m'appelle Romain Laval, donc je suis l'assistant à la mise en scène pour la compagnie du théâtre du Désordre des esprits, et je travaille au sein de la compagnie depuis 2011, donc beaucoup moins longtemps, 4 ans. Et du coup, dans l'actualité, jusque-là, 4 ou 5 créations, on a dû faire ensemble, quelque chose comme ça. Et je participe du coup, des fois, à l'écriture des textes, quand il le faut. Et sinon, il y a du travail administratif, il y a des choses à faire avec les comédiens, évidemment, avec la technique. Je suis un peu la passerelle entre les différents secteurs.
Donc moi je suis Gabriel Laval, je suis assistant d'administration, j'ai commencé en 2014 par un stage de fin d'études et puis j'ai repris à la rentrée 2015. Après quand on est en création, je vais être plus organisateur de tournée, catering, accessoiriste, machiniste. Et du coup il y a aussi donc dans la compagnie Marie-Paul Laval qui est donc assistante de la mise en scène pour le prochain spectacle Carson.
Et comédienne.
Avec Bruno Beuglin. Elle est évidemment comédienne aussi dans le projet. Et puis
elle écrit
dans
les textes aussi.
Et elle écrit les textes aussi avec tout le monde. Et Simon Laval qui est donc régisseur général, créateur décor et créateur lumière. C'est adorable.
On est un peu une troupe famille quoi.
Complètement.
Famille troupe ou troupe famille ou.
Voilà, comme au début du siècle, les Pitaref.
Un peu comme au cirque.
Voilà, un peu comme au cirque. Voilà,
on la famille Bouglione, la famille Zavatta, c'est quoi les cirques? Il y en a plein.
Les petits cirques fonctionnent beaucoup en famille.
Comme on le voit dans Michel Strogoff aussi, Jules Verne. Mmh. Voilà. Donc, j'aimerais donc, en premier lieu qu'on insiste sur Bruno Beuglin, sur votre parcours qui semble au premier abord atypique. Vous semblez, en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu en regardant votre parcours, avoir fait du théâtre en vous détachant d'une idée du théâtre comme institution morale et civique. Est-ce que vous partagez ce sentiment?
Non, je ne le partage pas du tout. Pour moi, le théâtre n'est pas une institution et par voie de conséquence, il ne peut être ni moral ni civique. Je dis ça pour faire.
Mais c'est une institution quand même, le théâtre. Ça, on peut pas.
Les salles.
Les salles.
Bâtiments.
Le théâtre.
Pas le théâtre. Le théâtre est tout, mais pas une institution.
Oui, mais le théâtre doit faire avec les institutions.
Il a à faire avec.
Tu parles du processus, alors que comme quoi le théâtre ne doit pas s'institutionnaliser.
Oui. Ne pas devenir une institution.
Et donc du coup, si ce théâtre représente autre chose, Est-ce que c'est une manière de choper la vie, comme vous me l'aviez dit là, lors de notre première rencontre? Alors, choper cette vie pour faire quoi? Pour en décrire avec lucidité l'évidence, ou bien au contraire le profond mystère?
Alors, pour en choper la vie avec ces mystères, entièrement d'accord. Mais pour ce qui concerne les évidences, je m'en méfie beaucoup, car je ne pense pas qu'il y en ait. Peut-être il n'y en a pas. Il est toujours très difficile de démêler le vrai du faux. Par exemple, une fois on m'avait chopé mon portefeuille, il y avait je ne sais pas combien de témoins, ils avaient tous une opinion différente sur la direction qu'avait pris le voleur.
Au moins tout le monde était d'accord sur le fait qu'il t'avait pris ton portefeuille.
C'était le seul point sur lequel ils étaient d'accord.
Oui, donc il y a des évidences qui existent quand même.
Oui.
Mais du coup, est-ce que quand on met en scène une pièce, on essaye de partir quand même de ces évidences, de ce que tout à chacun peut percevoir, pour creuser le mystère, pour creuser encore plus profond, ou est-ce que pas du tout
Quand on monte une pièce.
Oui.
Ben, généralement, il faut pas mal de temps. Le choix se fait assez vite, je crois. Et puis, une fois qu'on a choisi, quand on se penche sur le texte, c'est là que les ennuis commencent. C'est là que les divergences entre les différents partenaires, assistants, metteurs en scène, décorateurs, comédiens, comédiennes... c'est là qu'il y a des divergences qui apparaissent comme si chacun avait un texte différent devant les yeux. Ce qui prouve aussi que le texte est bougrement intéressant, puisqu'il part dans différentes directions.
Ouais. Mais plus, c'est difficile pour toi de la façon dont tu travailles, mais plus que des évidences. Peut-être la chose à laquelle tu accordes énormément d'importance, c'est le détail et l'accumulation des détails dans tes mises en scène, qui ne sont pour moi beaucoup une succession de détails extrêmement mis en scène de façon très très méticuleuse, qui donne toute la véracité en fait de l'histoire que tu racontes. La véracité, elle provient de là. Souvent les gens, pourquoi est-ce qu'ils vont croire en l'histoire qu'on leur raconte? C'est parce qu'ils reconnaissent ces détails de la vie quotidienne, ils les reconnaissent dans la façon dont tu mets en scène. Ils les ont déjà vus, ils les ont déjà faits. J'en sais rien, mais et du coup, à mon avis, la force de tes mises en scène, elle provient beaucoup de la vie qui gît dans ces détails.
Moi, je crois qu'il y a, c'est pas pour me faire enfler les chevilles, je crois qu'il y a un univers Boyguin qui n'appartient qu'à lui, qui peut être partagé, mais qui n'appartient en réalité qu'à lui, et qui est alimenté par son passé, tout simplement, par les histoires qu'il y a eu qui se sont passées dans sa vie, et j'en ai eu pas mal, en France et à l'extérieur. Et comme Romain disait, rien sur le plateau ne doit être négligé. Je vais prendre un exemple tout simple, ce qu'on appelle les entrées au lointain et les entrées à la cour et au jardin. Pour moi, il y a de grandes différences de signification si un personnage entre au jardin, c'est-à-dire à gauche quand on regarde le plateau, ou à la cour, c'est-à-dire à droite quand on regarde le même plateau. Ça ne veut dire, ça parle du personnage. Ça dit énormément de choses sur le personnage et non seulement sur le personnage, mais aussi de l'action dans laquelle ce personnage s'introduit.
Et justement, dans vos mises en scène, dans certaines de vos mises en scène, du moins, comme par exemple l'exemple que j'ai pu retenir, donc la mise en scène d'après la pièce de Raphaël Alberti, Nuit de guerre dans le musée du Prado en 76, où le décor était une cave voûtée, et d'autres mises en scène qui nécessitent une machinerie, mais aussi des mises en scène où un espace est vide. Du coup, je me demandais quelle est la place que vous donniez au décor. Est-ce que c'était pour vous une simple chose qui remplit, qui décore, au sens propre du terme, ou bien plutôt un dispositif qui doit saisir le spectateur, qui doit saisir le regard du spectateur, l'accueillir, qu'il ne soit pas étranger en ce décor
Alors, c'est pas le décor, c'est pas simplement quelque chose qui remplit ou qui décore le plateau. C'est quelque chose qui doit servir à la pièce, qui doit être très très proche de la pièce et également très proche des comédiens. Décor dans lequel, je ne dis pas qu'il va se sentir bien, mais décor dans lequel il va pouvoir circuler, exprimer des sentiments, c'est pas pareil. Si on est à 2 mètres de haut, au lointain ou à la face, on n'exprimera pas les sentiments de la même manière. Donc le décor a une énorme importance. Même d'ailleurs quand il n'y en a pas. Quand on, comme chez Peter Brook, le plus souvent, où on joue plateau nu au départ. Il m'est arrivé également de faire des mises en scène plateau nu au Nicaragua dans des casernes sandinistes. C'était pour le spectacle El Integratorio. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On a écarté les tables et on a joué. Même chose dans les lycées français. Le même spectacle dans les lycées français à la veille du baccalauréat, on l'a joué dans des lycées en France et on poussait des tables et on jouait. Voilà. Au Nicaragua, ça a failli être l'émeute parce qu'il y avait, c'était lors des fêtes pascales, il y avait 900 soldats qui voulaient voir le spectacle. Ils avaient disposé 900 chaises devant une sorte de scène en béton. Je dis, ah non, j'avais demandé un lieu intime, vous avez bien une cantine. On est allé jouer dans la cantine, mais aux fenêtres de la cantine, comme tout le monde ne pouvait pas rentrer, on les voyait se marcher les uns sur les autres pour essayer de voir un peu le spectacle. Voilà, donc tout peut servir de décor. On a même joué sur une île, le naufrago rescaté, c'était la Isla Barra del Gran Lago du Nicaragua, avec la famille, une famille qui habitait sur cette île.
Et puis aussi juste peut-être à rajouter que le décor, le fait qu'il soit nécessaire pour les pièces, ça permet aussi, c'est une façon, des fois, un biais pour rencontrer ce qui se passe autour quand tu vas jouer sur l'île au Nicaragua. Et ben, il y a un service par exemple de barque qui va transporter les spectateurs, donc ça permet en réalité aussi de décider par exemple de s'installer là, que la pièce etc soit en lien aussi de manière très concrète avec l'organisation du territoire, ce service de barque qui va permettre aux voyageurs d'accéder à Lille, sur Lille, etc. Ou alors même, je pense au décor que tu avais fait à la MJC au tout début, dans les années 60-70, où là, il y avait un club, il y avait plein d'activités, un club de judo, un club de motard, etc. Et où là, il a fallu que tu t'imposes, que tu sois pas seulement la bande d'intello qui font du théâtre, mais qu'il a fallu que tu t'imposes au niveau de l'inscription géographique à l'intérieur de la MJC. et où du coup le décor a été un peu un prétexte pour aller empiéter sur les activités.
Tu as raison, Romain, ça a été très loin. À la maison des jeunes Ravier, ça a été très très loin. On a construit une scène, une cabine technique, on a peint la salle en noir, et pour avoir une coulisse au lointain, on a percé le mur très épais. Et on s'est retrouvé dans la salle du culturisme. Donc il y avait là une sorte d'impérialisme de la Compagnie de la Mouche vis-à-vis de la Maison des Jeunes, ce qui n'a pas échappé au président du conseil d'administration, Maître Hugo Yanouchi.
Impérialisme, c'est un peu... En même temps, c'est l'idée que le théâtre, il doit être vivant, quoi.
Il est
du coup, il doit déborder aussi en dehors de la scène sur ce qui se passe... En dehors du théâtre.
Ouais. C'est conquérir finalement.
C'est conquérir.
Dans tous les sens du terme. Un territoire.
C'est conquérir,
une scène,
mais aussi des fois bousculer les choses. Pas forcément. Il n'y a pas forcément une visée de conquête. C'est aussi l'idée que le théâtre naît des remous qu'il peut provoquer et qu'en réalité, pour qu'il y ait des remous, ben il faut effectivement déranger, bouleverser ce qui est déjà en place. Ne serait-ce que ça, avoir une salle pour pouvoir répéter, on va faire du bruit, donc il y a peut-être un truc à côté où il faut que ce soit le silence, donc c'est pas possible. Et le théâtre, c'est ça, c'est la... en tous les cas, il doit déranger, obligatoirement.
C'est un curieux mélange, il a raison. Il dérange, mais par exemple, quand on a monté Charles XII de Strindberg, une pièce historique, dans cette maison des jeunes et de la culture, sur le plateau qu'on avait construit, etc., on avait des drapeaux, il y avait le trône du roi Charles XII qui pouvait monter, descendre, et on avait la salle de judo juste côté jardin. Et on entendait les bruits des chutes des corps des judokas qui s'entraînaient. Et bien des spectateurs ont cru que c'était des coups de canon de la bande son de Charles XII.
Et donc justement, pour revenir à votre pratique du théâtre, un critique que j'ai pu lire compare votre pratique à une forme rituelle. Et pour reprendre les termes de Rimbaud que vous avez évoqués et que vous avez même invoqués... pour nommer la compagnie dans l'alchimie du verre, donc dans une saison en enfer, saison en enfer que vous avez aussi adapté à la scène en 74. Je voulais savoir si ce rite théâtral passe par cette folie rabaldienne qui voudrait fixer des vertiges.
Bon, alors là je vais être formel. Il n'y a absolument pas de forme rituelle dans mon théâtre. Rien de religieux, rien de sacrificiel, mais il y a un univers complètement personnel, composé, rempli de tout mon passé, de tout ce que j'ai vécu. Par exemple, ça n'a pas encore eu lieu, mais c'est une image qui me taraude l'esprit. Dans les Chiapas, un jour il pleuvait, et sur une piste, j'ai vu deux indiennes se protéger de la pluie avec un sac poubelle posé sur leur tête. Je me suis dit ça, cette image, et ça remonte à des années, ça remonte au moins à 20 ou 30 ans, cette histoire de sac poubelle avec la pluie. C'est-à-dire vous extirper de votre vie, de votre vécu, des choses que vous remettez sur le plateau et que vous faites faire aux gens ou que vous soulignez ou que vous indiquez. C'est pour ça que très souvent quand je dirige, de moins en moins parce que mais quand je dirige, je saute souvent sur le plateau pour aller dire un petit mot à un tel qui joue tel personnage, mais je lui dis à l'oreille pour que le personnage avec lequel il joue n'entende pas, et après ça recommence et on voit que la scène, il joue totalement différemment. C'est des milliers de petites choses comme ça.
Mais c'est peut-être justement dans ces milliers de petits détails qu'on peut retrouver une forme de rituel qui est complètement détaché de ce que tu pourrais parler. Tu pourrais penser une mystique traditionnelle, tout ce que tu veux.
Oui, mais est-ce que finalement, c'est, un peu
c'est pas ton rite, en fait, le tien. Celui de Bono Beglin, celui qui, celui qui te permet de diriger des pièces.
C'est le rituel qui me...
Bah parce qu'il n'y a pas de, dans rituel, il y a la fonction symbolique du rituel. On va dire, je ne sais pas, la force d'un rituel, c'est parce que, par exemple... une personne incarne une autorité et par exemple prenons l'exemple du mariage, parce qu'on l'a fait là il n'y a pas longtemps. Bruno jouait un maire et il mariait deux petits-enfants, parce qu'on avait des ateliers avec des enfants. Il mariait deux petits-enfants et il l'a joué tellement à fond, de manière tellement précise, avec les mots que le maire raconte, que le maire peut avoir, je vous marie, vous serez liés pour l'éternité jusqu'à la fin de vos jours, etc. Bah, qu'au début, les enfants qui étaient un peu turbulents, qui ne voulaient pas se marier les uns avec les autres, etc., bah, tout d'un coup, ils y ont vraiment cru, parce que bah, tu employais les formules magiques du rituel, et qu'en fait, les enfants, bah, réellement, là, ils avaient l'impression de se marier.
Il y avait un petit arabe, comme dit Romain, il y avait un petit arabe. Je prenais tellement mon rôle de mère au sérieux, qui a cru que ça y est, il était marié avec la jeune fille qui était à côté de lui. Quand je lui ai dit, eh, maintenant vous signez là, il s'est dit, il a eu peur.
Il voulait pas
se marier avec elle.
Et c'est peut-être parce que justement vous incarniez votre rôle, même si je sais que vous aimez pas beaucoup ce mot d'incarnation.
Ce mot.
Non, mais là où tu as été, c'est vrai, comment dire, la force que tu as, c'est
de faire
d'être très sérieux devant les enfants qui étaient là et qui comprenaient que c'était du théâtre, qu'ils n'allaient pas vraiment se marier au début, du coup, qui partaient un peu dans tous les sens, etc. Bah, du coup, le fait d'être extrêmement sérieux et de jouer ce rôle comme si tu l'étais, quoi, bah ça les a eux tout d'un coup, le petit enfant il avait une solennité qu'il avait pas du tout au début, quoi. Et en fait bah, dans les mises en scène c'est ça qu'on retrouve, c'est une espèce de concentration, un souci du geste juste comme on le voit faire dans la vie quotidienne, qui fait qu'on s'attache aux choses et qu'on croit aux personnages, qu'on croit à chaque chose. Et le théâtre, c'est
ça.
Et
oui, dans une mairie, et à tel point que le pauvre petit Algérien, à un moment, il a cru que ça y était, il était vraiment marié, quoi.
Il avait l'alliance au doigt.
Il avait l'alliance au doigt. Il s'est dit... non, c'est pas possible. Enfin, il a eu peur. Il a eu peur parce que moi, je jouais mon rôle de mère.
Et justement, vous faisiez peur. Et peut-être que la part de l'acteur, c'est peut-être c'est ce qu'on disait au départ, de bousculer les choses, de faire peur.
Ben c'est ça qui a fonctionné en tous les cas, c'est que contrairement, par exemple. C'était compliqué devant ses enfants d'être extrêmement sérieux comme tu l'as fait, et c'est ça en fait qui a marché, parce que les enfants, le théâtre, ils ont envie de jouer, ils ont envie de rire, ils ont envie, et là le fait que tu sois resté droit comme un i, etc., bah c'était ce qu'il fallait faire, quoi, parce que du coup bah, ils se sont tout de suite en réalité c'était plus du jeu au sens où ils étaient vraiment là en train de se marier, quoi.
Ouais, exactement.
Donc on était vraiment passé à l'étape théâtre, quoi. Il y a même une petite fille qui a pleuré. Et tu te souviens, il y a une petite fille qui a pleuré parce que non pas que c'était, elle croyait vraiment qu'elle s'était mariée, mais qu'en fait la réalité de la situation telle que tu l'avais posée en incarnant vraiment sans rigoler du tout le maire. Et eh ben en fait, elle avait plus de mots, elle savait plus quoi dire. Et du coup, le sérieux, en fait, le sérieux, ça l'a un peu décomposé.
La petite fille blonde, là.
Ouais, ouais.
Ouais.
Sylpheline.
Ouais, elle s'est mise à pleurer comme une madeleine.
Parce qu'elle y croyait, quoi.
C'est l'art de l'illusion, c'est l'écume de la vie, c'est pour ça que je ne crois pas beaucoup à la... comment on dit... à l'identification du comédien ou de la comédienne au personnage qu'il interprète. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent, libre à eux. Moi, les rares fois, quand je jouais, parce que j'ai plus de mémoire, maintenant je ne joue plus, mais quand je jouais, je voyais toujours un Bruno Bouéglin à 20 cm de moi. Il s'amusait à être le personnage le mieux possible. Mais je ne m'identifiais pas. Je n'étais pas lui ou elle. Dans Les Bonnes de Genet, je jouais Madame. Je n'étais pas Madame une seconde. J'étais Bruno Bouéglin en train de jouer Madame. Et là, on peut mettre une grande distance. Et ça procure une liberté que l'identification au personnage ne permet pas, parce qu'elle, pour moi, elle bloque. Si on s'identifie, on se bloque dans un certain registre, et on ira jusqu'au bout avec ce registre-là. Tandis que si on ne se bloque pas, si on se dit c'est faux, je joue. Comme aux Indiens et aux cow-boys. Moi, j'ai souvent joué à Gerland. Il y avait encore des forêts à l'époque, aux Indiens, aux cow-boys, puis j'ai été louveteau, on jouait aux Indiens, aux cow-boys, ou même aux partaquilleries, avec des lance-pierres, on se poursuivait. On reste soi-même. On n'est pas. Sinon, il y aurait des morts tous les jours. Comme si Tartet, il y aurait des morts tous les jours, boum 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 boum, dans tous les théâtres de France. Puisqu'il y a des morts dans les pièces de théâtre. Alors, si c'était de la réalité.
Et oui, donc justement, pour retourner à l'alchimie du verbe, il me semble que dans ce poème de Rimbaud, je retrouve quelques points d'ancrage de votre esthétique. Une part de mise à nu peut-être de la morale qui est hypocrite ou qui peut l'être, qui est, comme le dit Rimbaud, faiblesse de la cervelle. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de la morale? Est-ce que le théâtre est là pour la débroussailler ou pour l'élever, pour la grandir?
Bon, ben écoutez, là, je vais être décevant, je vais citer le dictionnaire Le Petit Robert. J'essaie d'interroger l'ensemble des règles de conduite considérées comme bonnes. Et à la question « Trouvez-vous aussi que le désordre de votre esprit est sacré ?» Non, pas du tout, mais pas du tout. Mon désordre de l'esprit, il n'est pas du tout sacré.
Donc finalement, c'est se mettre à nu aussi, se mettre sur une scène. Il n'y a pas...
Mais non, pourquoi?
Je ne sais pas, c'est...
Il n'aime pas les grands mots, en fait.
Se mettre à nu, vous pouvez...
Se dépouiller, finalement.
Mais non, mais vous pouvez inventer ce que vous voulez. C'est un espace éminemment libre, comme il n'y en a pas d'autre dans la vie. S'il y a un peu les cafés, les bars... c'est un espace libre. Donc vous pouvez exprimer ce que vous voulez, même des choses auxquelles vous ne croyez pas. Et c'est d'ailleurs mon expérience de comédien. Exprimer en tant que comédien quelque chose que je n'aime pas, ça me procure beaucoup de saveur. J'aime beaucoup. Par exemple, jouer les méchants, Fiesel dans...
Mais dans la vie aussi, on peut dire des choses auxquelles on ne croit pas. Et on peut aussi jouer dans la vie. On n'est pas obligé d'être sur une scène de théâtre.
Ah bah absolument, absolument. Mais là, je vais en revenir à moi. Moi, quand j'étais petit, j'étais très timide. Je suis resté très timide. On ne le dirait pas, puisque je réponds à vos questions comme ça, l'air de m'en foutre un peu. Non, la vie simplement m'a aidé à me carapasser. C'est-à-dire, la timidité, elle est intérieure, elle est restée exactement la même que quand j'avais 5 ans. Sauf que je me suis fait une cuirasse, pour qu'elle m'atteigne moins, parce que j'ai trop souffert.
Et donc finalement, l'art permet d'exprimer tout ça, de sortir de la cuirasse ou de la peindre comme...
Il permet tout, absolument tout.
Parce que moi, puisqu'on parle d'art, vous aimez beaucoup la peinture et les dessins aussi.
Pour moi, c'est indissociable. Le théâtre et la peinture. Vous voyez que chez moi, par exemple, quand on a décidé de travailler sur Carson McCullers, Frankie Adams, et de faire un spectacle qui s'appelle Carson, j'ai regardé des livres où elle était photographiée et j'ai sorti ça. Ça. Et ça. Et ça. Les champs de coton. On voit bien le coton. Là, on voit bien le coton et on voit bien. Carson McCullers aussi. Pour moi, c'est indissociable. Par exemple, ça ne sera pas le cas, mais sur ces champs de coton, d'où elle apparaît, on aurait très bien pu mettre la table de la cuisine chez Frankie, avec Bérénice, la nourrice de Frankie, on aurait pu poser ça comme ça. On peut tout faire. Mais la peinture, oui, moi, m'aide beaucoup à situer des choses dans mon esprit. Voilà. Donc ça ne sera pas le décor, hein, je vous rassure tout de suite.
Enfin, à éviter le désordre aussi, quelque part.
Hein?
À éviter le désordre.
Ben, il y en a de beaux. Hein. Il y a de beaux désordres. Il y en a d'abominables. C'est là que je vais sortir Daesh. Daesh, on ne les comprend pas. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette idée de détruire les œuvres d'art? Qu'est-ce qu'une œuvre d'art peut avoir de... oui, elle peut beaucoup interroger les gens, une œuvre d'art. Que ce soit un tableau, que ce soit une sculpture, que ce soit une pyramide, que ce soit encore, les statues d'encore, que ça... Je comprends que ça énerve Daesh. Parce que ça fait penser les gens, et ils n'aiment pas que les gens pensent ou s'amusent trop.
Et justement, toute cette vitalité, cette importance de la vie dont vous parlez, et que vous semblez avoir su mettre en œuvre sans passer par l'intellect, par un intellectualisme qui parfois peut être très douteux et ne rien dire du tout de la vraie vie. Est-ce que justement, comme ce que dit la Vaudan de votre théâtre, le fait que vous faites du théâtre comme on se fait du souci, est-ce que c'est ça pour vous la véritable voie de l'art contre la littérature, par exemple, la littérature qui pourrait être considérée comme une ornière?
C'est pas, je fais pas du théâtre contre la littérature, parce que la littérature, elle est déjà dans la pièce. Ou elle est déjà dans la pièce ou dans des œuvres around la pièce. Euh, Il dit, je me fais du théâtre comme je me fais du souci. C'est vrai, un peu. C'est un peu vrai.
Mais c'est un souci qui révèle une inquiétude profonde, ou c'est un souci de précision? Quel est le souci dont...
C'est un souci global, c'est un souci je pense être assez perfectionniste, c'est-à-dire que je vais aller sur un plateau corriger une broutille s'il y a un cheveu qui tombe sur le front d'un des personnages et que ce cheveu m'énerve parce qu'on voit mal son expression, j'arrêterai la répétition, je monterai et je lui retirerai et je lui dirai la prochaine fois tu te mettras un truc pour maintenir ta coiffure qu'on te voit jouer, bon Dieu, pourquoi tu joues les cheveux sur les yeux.
Du coup, c'est quoi? C'est un souci de véracité que t'as? Ou c'est un souci plus profond? Parce que... Ou si c'est plus profond, c'est-à-dire... Parce que t'arriveras jamais à reproduire la vie telle qu'elle est exactement. Donc, peut-être que le souci...
Mais non, mais la vie est irreprésentable. Même en art, même tu prends les plus beaux tableaux du monde, c'est pas la vie. C'est fixé. D'où il y a eu le gros débat entre la photographie et la peinture à une époque. Qu'est-ce qui était le plus vrai? La peinture ou la photographie?
Ouais, mais en gros, la question elle reste la même. Qu'est-ce qui guide ce que toi tu considères être une vision plus juste? Bah, pourquoi Marc parlait de...
Bah là, c'est personnel, ça ne peut être que mon univers à moi, ça ne peut être que personnel. Parce que ma vision plus juste, tu prends un autre metteur en scène, elle ne sera pas juste. Il y a Jacques Lang, quand il était ministre de la Culture à Chaillot, il avait émis le souhait de faire un projet, par exemple. On prenait le même texte. 4 metteurs en scène, une seule distribution et 4 mises en scène différentes. Puis après on changeait, le même texte, 4 décors différents, la même distribution et on changeait. C'était pour voir le rendu de tout ça. Il n'a pas pu le faire pour des raisons qu'il n'est pas resté suffisamment longtemps ministre des Affaires culturelles. Il n'a pas pu le faire. J'ai trouvé l'idée extrêmement intéressante.
Justement parce que c'est une sensibilité qui ne s'explique pas.
Voilà.
Qui n'a pas de limite en fait. Qui déborde partout.
Oui.
Et qui peut déranger du coup.
Mais déranger, c'est un verbe très fort. Déranger le spectateur, vous dites. Quand est-ce que vous croyez qu'il est dérangé? À quoi est-ce que vous croyez? Aux discussions que vous avez après avec lui?
Ou quand il sort de la salle?
Oui, après.
Ou pendant?
Les gens parlent peu entre eux. Le moindre bruit de bonbon, moi ça m'agace. Moi, le théâtre, c'est. Quand même, c'est un peu. La forme la plus traditionnel, c'est quand même il se passe quelque chose sur un plateau, puis il y a le public quoi, qui ferme sa gueule, sauf quand il y est invité.
Mais justement, il y a par exemple dans tous les voyages que vous avez pu faire au Nicaragua, vous pouviez vous retrouver face à un public qui n'était pas éduqué à cette pratique de spectateur de théâtre. Alors du coup, dans ces conditions, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on fait?
Eh bien, on fait comme d'habitude. On fait comme d'habitude. C'est l'exemple de Chaguitillo, où on a joué tombé en plein air, dans un stade, et où il y avait 850 spectateurs qui faisaient du bruit, une maman qui donnait la tétée à son enfant, il y avait des gamins qui passaient avec des vélos. Et les comédiens jouait, continuait de jouer imperturbablement en espagnol, dans la langue du pays.
On fait comme d'habitude, mais on s'aperçoit que des choses qui habituellement marchent, par exemple le silence du public, il n'y a même pas besoin de le dire, dans un public en France, et ben là-bas ça ne marche pas. Le silence du public, si tu veux l'avoir, il faut déployer des moyens que tu n'as pas forcément envie de dépenser une énergie qui... Donc tu fais autrement, les acteurs vont élever la voix, tu t'aperçois même qu'à l'intérieur du texte, il y a des choses sur lesquelles le public va être beaucoup plus réactif, au contraire d'autres, et ça c'est lié aux cultures qui sont différentes. Et donc du coup aussi, tu fais pas comme d'habitude, tu t'adaptes quand même. Alors après, faut s'adapter jusqu'à un certain point, parce que...
Non mais t'as raison, moi je me souviens pour El Integratorio, c'était pas très éloigné de 1979, le triomphe des Sandinistes sur le dictateur Somoza. On est allé jouer après, en 81, un truc comme ça, dans une salle. Moi, je tirais un coup de pétard. Mais qu'est-ce que j'avais pas fait? Mais tout le monde a eu une peur. Ça leur rappelait trop la révolution qui venait d'être achevée, accomplie. Un coup de feu. Tous les murs de Managua, d'ailleurs, on voyait les balles dans les murs. Ça avait été... Et c'est là que Bernard est arrivé. En avion.
Bernard Marie Coltès, hein, je précise.
Oui. Il est arrivé en avion. Il y avait 8 personnes dans l'avion. Il est arrivé au crépuscule. Poum. Et il y avait la garde civile qui lui a dit... la garde nationale qui lui a dit, écoutez, monsieur, il n'y a qu'un endroit où vous pouvez aller. C'est à l'Intercontinental, l'hôtel le plus cher, en forme pyramidale, pour éviter les tremblements de terre, les fissures, les machins. Il a fait, depuis l'aéroport jusqu'au centre de Managua, l'Intercon, 15 km à pied, dans les feux croisés des camions militaires somosistes.
Et oui, donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut être marqué dans son théâtre, cette volonté de rendre compte de la catastrophe de notre monde moderne.
Mais absolument, mais il a dit d'ailleurs dans un de ses textes que j'ai lu dans Coltès Voyage, il a dit dans un de ses textes qu'il n'avait jamais eu aussi peur de sa vie. Parce que qui a entendu une balle siffler à ses oreilles? Qui peut dire qu'il a entendu une vraie balle siffler à ses oreilles? Les habitants de Saint-Denis.
Et donc avant de parler un peu plus en détail de Coltès, j'aurais encore quelques questions justement par rapport à l'art théâtral en tant que tel. Donc, je voulais savoir si est-ce qu'on peut apprendre la beauté à faire la beauté, où est-ce qu'elle vous ronge les entrailles? Est-ce que c'est dans ça que s'exprime pour un comédien, pour un metteur en scène, la nécessité de faire du théâtre? Et surtout, plus important, qu'est-ce que ça peut apporter d'essentiel dans notre rapport quotidien au monde, par exemple à la violence qu'on peut percevoir tous les jours, notamment par exemple par l'actualité?
Je pense qu'on n'apprend pas la beauté. La beauté, c'est une entité, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Si vous décidez, vous, de considérer ça, un tableau, comme laid, je ne vais pas m'efforcer à vous dire qu'il est beau. Donc la beauté est quelque chose qui ne s'apprend pas. Elle se présente d'elle-même à vous, soit soudainement, par une sorte de flash d'illumination comme chez Carson, qui lui permet de repartir. Carson McCullers dans l'écriture, elle parle d'illumination, soit par des tout petits chemins.
Ces petits chemins qui ne mènent nulle part. Peut-être aussi.
Mais qui mène à la beauté. En tout cas, en aucun cas, elle ne me ronge les entrailles, comme vous dites. Parce que que là, ça me fait penser au vomi, aux intestins, le gros intestin, le duodénum. Bon, le verbe est trop fort. Moi, simplement, je fais du théâtre parce que j'aime raconter des histoires. Je ne leur dirai jamais assez, ça. Voilà. J'aurais pu être conteur. Quand ces histoires rejoignent la grande histoire avec un grand H, alors je trouve que le tour de force est gagné. Enfin, que j'ai un peu gagné la partie. Et je peux parler de tout. Je peux parler de tout, on peut parler de tout. De la violence comme du bonheur comme de la joie. L'autre jour, il y avait à la télévision un mec écrit un bouquin sur la joie. Il était très drôle. C'était très drôle, j'y croyais qu'à moitié, moi. Mais enfin, bon. J'essayais de voir si lui-même y croyait, mais pas plus.
Face à cette violence dérisoire, cette violence qu'on connaît et qu'on a toujours connue en réalité, mais qu'on connaît plus particulièrement ces derniers jours, est-ce que la défense de l'art devient primordiale ? Ainsi que votre spectacle mythique, en ce sens le plus, enfin, celui qui à l'époque avait fait beaucoup parler de lui, la Novia, semblait le mettre en perspective.
Moi, je note que la défense de l'art est importante, mais peut-être pas primordiale. Primordiale, ça veut dire la défense de l'art vient en premier. Primordiale. Il y a plein d'autres choses dans le quotidien qui sont plus primordiales que l'art. Je ne divinise pas l'art, qu'il soit pictural, sculptural, cinématographique, etc.
Non, et puis d'ailleurs, moi je trouve aussi, tu as raison, bah, moi je suis d'accord de ne pas diviniser l'art, et puis aussi de ne pas penser qu'il faille aussi le protéger, parce qu'en fait l'art, il faut qu'il se défende tout seul. Et c'est peut-être le plus... Enfin voilà, c'est peut-être... je sais pas comment dire ça, mais la meilleure défense de l'art, c'est à lui de se défendre pour exister. C'est comme n'importe quelle chose, pour qu'elle existe, elle doit lutter, elle doit se battre.
C'est quand même malade.
On peut pas la mettre sous perfusion.
Ouais, voilà, on peut pas mettre l'art sous perfusion.
Là, j'exagère parce que la métaphore avec les subventions, elle est un peu. Elle a besoin des fois de perfusion. Si elle est trop malade. Peut-être c'est qu'elle est malade qu'on a le besoin de la protéger.
Après, on peut peut-être juste le protéger en continuant à en faire, en soi. Peut-être juste ça.
Et puis,
c'est peut-être là, la question, elle est peut-être là.
Mais il n'y a pas à le protéger. Il n'y a pas à le protéger. Quand vous allez dans les grottes de Lascaux, quand vous allez dans les grottes de Chauvet, vous voyez que depuis l'origine de l'homme, ils ont commencé à dessiner leur choses, leurs petits animaux, leurs petites eux-mêmes, les chasseurs, etc. Ça, c'est de l'art. Ça, c'était leur art à eux. Qu'on essaye des fois, d'ailleurs, moi, combien de fois j'ai essayé de recopier ça. Alors que c'est complètement ridicule, je le fais plus. Mais ces petits bonhommes... on dit là, là, regardez, là, il y a une girafe, enfin, là, on la voit pas, mais enfin, bon, là, il y a un zèbre, là, il y a un paysan, là, il y a, sur les murs de la grotte. Alors, l'art menacé, sauf si les conditions climatiques ne s'améliorent pas, puis que ça s'efface, ou tu dors.
Non.
Ça s'efface, ou j'en sais rien, mais...
Donc finalement, ça reste gravé.
Absolument.
Et c'est une mémoire aussi au théâtre qui reste, par exemple, qui reste gravée dans le spectateur.
Ah ben, quand le spectacle est beau. Moi, je vais vous dire un truc, je devrais pas le dire, mais enfin, la moitié des choses, ou les trois quarts des... Je vais pas souvent au théâtre. Mais quand j'y vais, le lendemain matin, j'ai tout oublié. J'ai jamais vu, enfin, ou très rarement, un peu au Festival d'Avignon, un spectacle qui m'avait marqué, j'ai oublié le nom du metteur en scène, où on voyait un vieux monsieur tout nu se faire torcher par son cousin italien. En costume. Le vieux monsieur était nu, on lui mettait des couches pampers.
C'est pas Castellucci.
Si, c'est Castellucci. Chaque fois qu'on lui mettait une nouvelle couche, il rechait dedans. Et on entendait ce vieil homme se lamenter sur son sort. Il n'était pas content d'être dans l'état dans lequel il paraissait, etc. Ça durait quand même une heure et quart. Je ne me suis pas fait chier une seconde. Pourquoi je disais ça ?
Parce qu'on parlait justement de ce que ça pourrait créer chez le spectateur.
Ah ben moi ça a créé, moi j'ai découvert là une autre façon de faire du théâtre.
Une matière organique en fait, c'est ce que Castellucci défend.
Une matière organique là, mais ça peut être autre chose, ça peut être n'importe quoi, mais c'est rare. La majorité, à 99% des cas, c'est un théâtre qu'on connaît, fait de conventions, d'arbitraires, il y en a marre de ce théâtre-là. Rares sont les metteurs en scène et les équipes qui apportent véritablement quelque chose dans l'art théâtral. Ils sont très rares.
Mais finalement, on apporte toujours une nouvelle pierre à l'édifice.
Non, pas toujours.
Pas toujours.
Des fois, on apporte une pierre dans un édifice qui est déjà construit, on la met, elle se fond dans l'édifice. Ça, c'est le plus fréquent. Hein.
Non, je suis pas d'accord avec toi, parce que je crois qu'aussi, il faut en voir du théâtre aussi, pour pouvoir dire ça.
J'en vois un tout petit
peu. Il faut en voir plus.
Oui, bah non.
Parce que tu peux...
Non, merci.
Bah non, merci. Et t'es bien obligé.
Mais non, mais puisque les chances, elles sont infimes.
Mais c'est que les chances, elles sont infimes, mais t'en sais rien si tu y vas pas. Et puis moi, je suis pas d'accord, parce que même dans un... Bah, parce que, comme t'as dit, comme on a dit tout à l'heure sur la beauté, qui peut te tomber sur le coin de la gueule, et ben c'est pareil au théâtre. C'est la même chose. Une belle pièce, elle peut te tomber sur le coin de la gueule, tu t'y attends pas. Mais elle te tombera pas dessus si tu restes.
Ah ben ça, c'est certain.
Et voilà. Donc on peut pas dire que 99%, déjà les chiffres, c'est à relativiser. Si tu vas pas assez au théâtre, la proportion est plus grande.
95. Je ne fais pas en dessous. Hein.
Et donc justement, pour reparler de Coltès, donc vous êtes un des premiers metteurs en scène à avoir mis Coltès avec Salinger. Et aussi Roberto Zucco, que vous avez mis en scène au TNP. Donc dans les années 90, après la mort de Coltès, qui est sa dernière pièce, je me demandais justement, et dans la continuité de Rimbaud, si notre monde moderne est pris de désillusions, qui finalement n'a pas quitté un certain romantisme, a toujours un espoir, mais finalement... tombe toujours dans un fossé et essaye de lever les yeux au ciel sans trop y parvenir. Je me demandais quand même si cette conscience qui étrangle les passions, si c'est pas ça qui permet d'évacuer l'art, et si finalement ça fait pas renaître quelqu'un. Si par exemple au théâtre, si on peut pas face à un spectateur, est-ce qu'on peut le faire renaître autrement, le rapprocher de ses propres limites.
Est difficile la question, parce que c'est placer beaucoup d'espoir dans le théâtre.
Je pense exactement pareil que Romain.
Le théâtre a pas ce pouvoir.
Je ne dis pas qu'il ne l'a pas. Je dis que nul ne peut savoir, qu'il soit 50 dans la salle ou qu'il soit 1000, comment le spectateur va sortir transformé ou pas. Ou est-ce qu'il aura simplement l'impression d'avoir vu un spectacle de plus? Est-ce qu'il aura su capter ne serait-ce qu'une petite chose qui peut le faire un petit peu grandir dans sa vie, évoluer en mieux ou en pire dans sa vie. Ça, je ne sais pas. Ça, on n'a pas eu des gros reportages à la fin des spectacles pour interviewer les gens en leur demandant alors. Parce que généralement, ils disent oui, enfin. Ils sont assez sommaires, les gens, ils sont assez francs du collier, ils disent oui, le décor était pas mal. J'avais lu la pièce, Les femmes savantes, puis Juliette elle tenait bien son rôle. Bon, on en reste à des espèces de banalités comme ça. Il est certain, à mon avis, sinon ce serait désespérant, que parmi ces spectateurs, quelques-uns, on ne peut pas comptabiliser, on n'en sait rien, aient été marqués profondément et que ça chamboule un petit peu leur façon de penser intérieure. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça arrive? Je pense que oui, sinon j'arrêterai. J'arrêterai. En tout cas, tous mes efforts quand je mets en scène, c'est pour ça. Je pense pas au public. Hein. Quand je mets en scène, je dis pas « Ouh là là, comme ils vont préférer ça, on va faire ça. » Plutôt que ça. Mais je me dis quand même « Merde, je leur fais assister à ça. » Dans Nuit de guerre, dans la Niovia, il y avait un moment où on m'avait ficelé, monté en l'air, et on me tirait dessus. Alors il y avait bien sûr les petites pompes passant. Bon, c'était tellement réaliste que les gens dans la salle, qu'est-ce qu'ils pensaient? Je ne peux pas savoir. J'en ai chopé un, mais c'était celui qui avait été le responsable de ma réforme militaire, le lieutenant-colonel Sauvageau, qui était venu là, voir ce spectacle. Putain, je le vois là, au bar. Je me dis, oui, c'est lui. Je suis allé le voir, et le comte, c'est ce qu'il me dit. Ah, il me dit, superbe, hein, les SS. Superbe. C'était les franquistes. Des illusions, un médecin, un lieutenant-colonel dans l'armée, bon, à l'hôpital militaire d'Egenet. Santé. Moi, ma mère m'a toujours dit, les médecins sont ceux qui ont une culture générale les plus faibles. Ce sont les médecins, Monique me disait.
Et justement, parce que ça travaille à l'imaginaire et au fantasme des gens, et peut-être que les gens n'appellent pas forcément l'histoire avec un grand H, que finalement c'est peut-être pas ce qui préoccupe premier lieu quand on...
Mais non, mais c'est pas ça, c'est peut-être que le médecin ou le chirurgien il est trop à l'intérieur du malade ou de l'opéré pour pouvoir gamberger sur autre chose.
Heureusement en même temps, hein, parce que
bah oui.
Moi je suis bien content qu'il y ait des médecins qui aient été bien sur terre.
Oui, qui t'opèrent en pensant pas au spectacle qu'il a vu la veille, tu vois.
Mais justement, puisqu'on parle de médecine, autant parler des fondements du théâtre. Est-ce que ça purge les arts? Enfin, est-ce que ça purge les âmes? Est-ce que ça peut purger les âmes?
Qu'est-ce que le théâtre par purger?
Ben c'est ce que nous dit ce bon vieux Aristote, avec des mots qu'on comprend pas toujours aujourd'hui. Ce truc de la catharsis qui fait que comme un médecin justement, par le théâtre, Aristote appelle pas ça théâtre, mais en tout cas une forme de drama, une forme de voilà. Mm. Est-ce que ça permet d'expurger?
Encore une fois, il n'y a pas de... généralité. Il se peut que ça se produise, ce phénomène, comme il se peut que ça ne se produise pas. Et quand ça se produit, c'est superbe, c'est splendide. Quelqu'un dans la salle, un spectateur qui, en voyant le spectacle, change de point de vue, change sa façon de voir la vie, de voir les choses. Ça, c'est trop beau, même. Ça, c'est pour la voir en mieux, bien sûr, ou pour la voir plus, peut-être pas en mieux, mais plus justement. Ça, ce serait splendide. On ne peut pas en être sûr.
Il n'y a aucune évidence, quoi. Au final, on en revient.
Si, on peut, des fois, la façon dont certains peuvent parler d'un spectacle qu'ils ont vu, on peut sentir que c'est vrai, qu'ils ont été vraiment touchés. Mais après, pareil, ça peut être au théâtre, mais ça peut être dans la rue, ça peut être à la télé, enfin, les choses qui font que qui vous révèlent quelque chose de vous-même. Pourquoi est-ce qu'on en verrait plus souvent au théâtre qu'ailleurs? Je sais pas. Peut-être.
Si, parce que c'est un art vivant.
Ouais, mais c'est cette dimension, la dimension vivante du théâtre.
Devant des gens vivants.
Mais qui les met à distance, du coup, aussi. Parce qu'on voit, sur scène la vie qui n'est pas. C'est ce que dit Coltès, il aime bien le théâtre parce que c'est justement le lieu où on dit que c'est pas la vie, alors qu'en fait c'est la vraie vie. Et je me dis que ça, justement, ça.
Non, c'est pas la vraie vie, le théâtre. Oui. C'est l'écume de la vie.
Mais ce qu'on ramasse alors ?
Ben, chaque spectateur, à mon avis, n'a pas un petit ami, comme les chercheurs d'or. Là.
Oui.
Chaque spectateur n'a pas dans son esprit un petit ami pour dégager les pépites qu'il peut avoir vues. Des fois, il va s'en souvenir 3 jours après, ou faire un rêve. Marie-Paul a rêvé à Daesh. C'est quand même insensé. Cet abrutissement par la télé, moi je regarde tout ce qui est Daesh, mais c'est quand même insensé que Daesh ait été se nicher dans la conscience de cette dame pour qu'elle en rêve. C'est que les bougres ont gagné. Mais le théâtre, je ne sais pas. Le théâtre peut avoir cette force-là, quand il est remarquablement bien fait, et peut-être pas sur l'ensemble d'une salle, peut-être au niveau d'unités de spectateurs. C'est ce que je souhaite, quand même. C'est pas un message, en tout cas, je ne délivre pas de message. Ça, non.
Et justement, pour défendre cette vie sur scène, que choisir entre la violence et la tendresse ?
Je comprends pas la question.
Mais est-ce qu'il faut caresser, en gros, l'œuvre théâtrale, caresser le spectateur, lui montrer justement, le faire s'évader, le faire rêver Et où est-ce que en même temps et à l'inverse il faut le bousculer, lui être violent, voilà des sacs poubelles, des têtes qui sortent de sacs poubelles, des choses comme ça dont vous m'aviez parlé et qui étaient présentes dans certaines de vos mises en scène.
Non, Titus Andronicus, il y avait des têtes décapitées dans des sacs plastiques. Bruce Miller avait dit l'astuce de metteur en scène, j'avais été engueulé. Bon.
Mais il n'y a pas qu'une voie, la tendresse ou la violence, peut-être qu'elles sont toutes à explorer. Pour arriver à ses fins, je sais pas ce que sont tes fins, Bruno, mais après il y a pas, de toute façon il y a pas qu'une voie, ça c'est sûr, il y a pas
à gauche la violence, à droite la,
et puis elle se mélange bien souvent,
il y a également peut-être d'autres sentiments, par exemple la compassion, qui n'est pas de la tendresse, qui n'est pas de la violence, mais la compassion, c'est quelque chose, c'est pas de la pitié. Par exemple, quelle différence on mettrait entre pitié et compassion ? Moi, je serais incapable de dire la différence, mais je la sens, la compassion. Donc il y a toute une palette de peintures, de couleurs, comme ça. Entre violence et tendresse. Je cherche pas tout le temps à faire un théâtre violent ou qui agresse le spectateur, sauf quand le texte m'y oblige, mais j'espère qu'il y a quand même des moments d'immense tendresse aussi.
Et donc pour pour revenir sur la compagnie, j'aurais une question plus générale à vous poser concernant le théâtre, un théâtre populaire. Est-ce que vous croyez à un théâtre populaire en dehors de toute institution? Alors bien sûr, ce théâtre naît aussi de la confrontation avec d'autres cultures, comme tous vos voyages au Nicaragua, et même tout récemment la compagnie qui a aussi fait des créations au Nicaragua. Est-ce que ce théâtre populaire n'est pas resté, n'est pas qu'une utopie? Est-ce que vraiment...
Je crois pas. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est pas tant d'aller là-bas faire du théâtre et d'en faire, c'est quand je reviens. Parce que les Nicaraguayens sont des gens très jovial, très gentil, dans leur grande majorité. On se sent très bien à leur contact. Que ce soit les spectateurs ou les gens de la rue. Mais quand on revient à Lyon, quand je reviens à Lyon, je vois les vitrines de charcuterie, les vitrines de vêtements, les vitrines de ci, les vitrines de ça. On est aux antipodes. À Managua, la capitale, il n'y a aucun magasin. Il n'y a pas de vitrine, pas une. C'est complètement détruit, Managua. On voit des immeubles effondrés qu'on n'a même pas rasés au bout de verre. La cathédrale, l'heure s'est fixée au dernier tremblement de terre. Elle est devenue le rendez-vous de tous les drogués, de tous les homosexuels. Elle a même été entourée de fils de fer barbelés parce que la forêt vierge commençait à émerger de l'autel. On a là des visions de décors absolument fabuleuses. Fabuleuses, c'est comme quand Bernard Coltès parle de Key West, enfin cet endroit à New York. Managua, la capitale, la cathédrale de Managua, ils en ont construit une autre. À l'extérieur de Managua, qui est une horreur, avec des alvéoles, des machins comme ça. Mais tu vois la cathédrale de la ville.
Oui, mais nous, c'est parce qu'aussi elle est inconnue qu'elle nous attire. Ah oui, mais les choses qui sont sous nos yeux, là, elles ne sont pas pour autant, tu vois... À chaque fois avec toi, je me fais un peu l'avocat du diable.
Mais si, il y a une église que je prends quand je vais chez mon kiné. Je ne sais plus la rue, dans quelle rue c'est. Ouais. La rue Nereille, il y a une église. Il y pousse. Elle doit être fermée, cette église. Il y pousse, il commence à y pousser de la végétation. On le voit même au sol à certains endroits bétonnés où hop, il y a une petite graine qui a germé et qui pousse. Pourquoi je parle de ça?
Parce qu'on parle du Nicaragua, de la confrontation, de la différence avec les cultures.
Ah oui, le choc le plus grand, c'est au retour. D'accord. Avec la mine crispée des gens rue de la République, la montée de la Grande Côte, c'est différent. C'est un peu une... à part. C'est des bobos avec des artistes. Bon.
Et justement, partir au Nicaragua comme ça, faire des collaborations, travailler avec les comédiens, avec des comédiens sur place, est-ce que c'est un exil nécessaire pour quitter cette wasteland, pour reprendre les termes de T.S. Eliot, cette terre vaine, une terre européenne, voilà, sclérosée au public très embourgeoisé, est-ce que c'est un exil de partir pour...
C'est pas un exil, c'est un besoin. Et quand je reviens de là-bas, je reviens beaucoup plus riche pour faire du théâtre. Personnellement, hein. Là c'est très égoïste.
Je pense que c'est un besoin autant que, comme on pouvait dire tout à l'heure, c'est-à-dire de jouer dans des endroits qui sont plus du tout théâtre. Je pense que c'est le, en fait, il est né du même besoin, c'est-à-dire de voir d'autres choses, de se,
oui,
fond,
on peut
de
aller
se
moins
confronter
loin.
En tant qu'artiste à d'autres choses.
On peut aller moins loin.
Voilà, on peut aller moins loin, on peut aller
plus loin.
Aller plus loin aussi.
Et vous avez au départ insisté sur la dimension familiale à l'ancienne de la troupe, donc du désordre des esprits. Et donc je voudrais, donc à la relève qui est là en face de moi.
Donc, c'est pas la relève. Il a l'impression que je suis un vieillard.
Non, non, pas du tout. Non,
ah, si, si, vous l'avez dit, vous l'avez dit.
La relève, non, la relève, mais du moins. Enfin, en tout cas.
Le vieux, il.
Prolongement. Le prolongement.
La continuation.
Oui.
Si vous préférez la continuation, est-ce que, avec cette, justement, on parlait de la transmission, en tant que jeune créateur, est-ce que vous avez l'impression, dans le rapport à votre père, est-ce que vous avez l'impression de tenir un héritage, ou est-ce que à chaque spectacle vous découvrez une nouvelle matière théâtrale? Et je pose la question aussi à vous, Bruno Beuglin, est-ce que à chaque spectacle il y a une nouvelle matière qui se constitue finalement?
Il n'y a aucun spectacle qui ressemble à un autre. Chaque fois que j'aborde une œuvre, après je laisse parler Gabriel et Romain. Chaque fois que j'aborde quelque chose de nouveau, une œuvre nouvelle, je me remets entièrement en question.
Ben comme ça, au moins, on est sûr que tu es encore assez jeune pour faire du théâtre. Alors.
Oui, même retraité.
Non, mais après, nous, c'est vrai. Bah, c'est sûr, à chaque fois qu'on aborde, enfin là on travaille sur Carson Maculaire, c'est complètement différent de ce qu'on a pu faire avant, donc évidemment quoi, et heureusement qu'on se vide pour se re-remplir de quelque chose. Après on se vide jamais complètement.
Non, je pense qu'il y a des aspects de la mise en scène de Bruno qui restent, constitue un fil rouge de comme on pouvait dire tout à l'heure, le souci des détails, de la méticulosité qu'il a dans la façon de diriger les acteurs, tout ça, je pense que ça reste. Après, c'est sûr que quand on regarde les dernières œuvres qui ont été abordées, à chaque fois, c'est toujours nouveau, quoi. C'est toujours nouveau. Enfin, pas nouveau, mais des nouvelles choses qui traitent. Mais je pense qu'il y a quand même un fil rouge dans tout ça, même si.
Moi, je crois, je me souviens des bonnes, à un moment, il y avait un plateau avec un service à café ou à thé. Putain, j'ai piqué des colères, c'était jamais le bon. C'était jamais celui que j'imaginais. Il m'amenait des trucs, c'était pas ça. Ça, c'est insupportable.
Et donc pour terminer l'entretien, j'aimerais que l'on parle de votre prochaine création, donc qui aura lieu à partir d'avril prochain.
Bon, de février, ouais.
Ah, février.
19 et 20 février au Subsistance.
Donc voilà, parlez-nous rapidement voilà, de ce que vous avez à dire sur votre dernière création, sur finalement ce qui constitue le spectacle. Alors vous l'avez déjà évoqué tout au cours de l'entretien, donc il s'agit d'un spectacle qui s'appelle Carson Maculaire et qui parle donc d'une romancière
américaine.
Ouais.
Qui est née en 1917 en Géorgie et morte en 1967 près de New York. Et du coup le spectacle qu'on prépare, c'est à la fois la vie et son œuvre, quoi, et ses romans et sa pièce, parce qu'elle a, du coup, elle a adapté un de ses romans en pièce. Donc la pièce s'appelle en français Frankie Adams et parle d'une jeune fille donc de 13 ans qui s'ennuie ferme dans sa cuisine du sud et qui du coup a des discussions avec sa nourrice noire qui est avec elle et qui passe ses jours d'été qui sont sans fin et donc ils jouent aux cartes et ils discutent des, Francky, la petite Francky, elle a des questions existentielles à poser à sa nourrice. Et par exemple, alors il y en a tout un tas. La première, c'est pourquoi est-ce que je pourrais pas changer de nom et m'appeler plutôt que Francky, je voudrais m'appeler comment c'est ? Je voudrais m'appeler
Jasmine.
Jasmine, voilà, Jasmine, parce qu'en fait son frère s'appelle Jarvis et son frère va se marier avec Janice. Donc Ja et Jasmine pour faire partie du mariage. Donc en fait, c'est des idées mais que peuvent avoir des adolescentes de maintenant, quoi, de faire partie de quelque chose. Donc on va pas, donc il y a cette pièce au centre du spectacle, mais il n'y a pas que cette pièce, il y a aussi d'autres textes et il y a la vie de l'écrivaine qui est une vie bien chargée, qui a écrit 4 romans. Le cœur est un chasseur solitaire qui était son premier roman, qui a fait que tout à coup elle est devenue très très célèbre. Ensuite elle a écrit Reflet dans un œil d'or. Ensuite, elle a écrit donc cette pièce Frankie Adams, mais qui au départ était un roman et qu'elle a adapté ensuite en pièce de théâtre, qui a connu beaucoup de succès là-bas aux États-Unis. Elle a été jouée à Broadway. Voilà. Et ensuite, un dernier roman qu'elle a écrit beaucoup plus tard, sur la fin de sa vie, qui s'appelle L'horloge sans aiguille. Voilà. Et dans ces romans, il est beaucoup question en fait de population un peu marginal, par exemple il y a plein de personnages mais qui sont toujours un peu en à la marge, quoi, du rêve blanc américain. Par exemple, il y a beaucoup question des noirs et de la condition des noirs et à l'époque de l'énorme injustice, quoi, qui pesait sur eux. Mais du coup, le fait qu'elle ait été elle-même dans son enfance gardée par une nourrice fait qu'elle connaît très très bien cette communauté, et elle en parle très bien, comme si finalement elle-même était noire, quoi. Enfin, en tous les cas. Puis il y a beaucoup de choses dans ses romans. Moi, et il y a son amour pour la musique. Elle a failli être une grande soliste piano. Puis finalement, son rêve s'est brisé à New York parce qu'elle a perdu l'argent pour suivre la Juilliard School of Music. Donc c'est là qu'elle s'est mise à écrire. Et un talent en a remplacé un autre. Elle est devenue la grande écrivaine qu'on connaît à la place. Et il y a aussi un texte, parce qu'elle écrit des nouvelles aussi. Et dans le spectacle, il y aura aussi le texte de la balade du café triste. Et qui est l'histoire un peu, même très extravagante, d'un personnage qui s'appelle Miss Amelia. Et puis qui vit dans une petite ville du sud des États-Unis, poussiéreuse, un peu une ambiance un peu Far West, et où elle se marie une première fois avec son premier mari.
Parce que vous mettez en scène ce spectacle aussi, donc avec Romain Laval qui vous assiste et qui a fait la traduction aussi de la pièce
Adams, qui s'appelle en anglais The Member of the Wedding, et qui a jamais été traduite en France. Le roman a été traduit, mais pas la pièce qui a été adaptée par l'auteur pour le théâtre. Et du coup, nous, on est content d'avoir découvert ce texte qui est magnifique. Et donc, sur le plateau, on va être 9, 6 comédiens, comédiennes et 3 musiciens qui vont jouer en direct sur le plateau la musique du spectacle, qui va être beaucoup de blues. Et aussi beaucoup de blues.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, sauf que cette garçon de ma couleur, ça a eu une fin de vie absolument abominable, parce qu'elle a été mal soignée d'une pneumonie lors de son enfance. Il y a eu un mauvais diagnostic des médecins, et à partir de je ne sais plus quel âge, elle allait d'hôpitaux en hôpitaux, on lui a coupé une jambe, elle était en fauteuil roulant, la canne, etc. Il faut dire qu'elle avait eu aussi une vie un peu dissolue par l'alcool.
Mais on sent que sa vie, elle est très... que c'était quelqu'un qui ressentait les choses physiquement.
Très fort.
Ouais, à chaque fois qu'il se produisait un événement dans sa vie,
ça avait effectivement des répercussions immédiates sur sa santé, mais à un point, en tous les cas en ce qui la concerne, qui est
terrible.
Terrible.
Mais elle parle aussi de ses illuminations.
Mais c'est justement ce que l'image dont vous nous parliez. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu représenter, justement, ce personnage qui, au milieu du champ de coton, on fera en sorte que les auditeurs puissent voir cette image, mais est-ce que ce personnage qui est au milieu du champ de coton et qui se bouche les oreilles, qui crie, que, est-ce que finalement...
Elle ne se bouche pas les oreilles, elle a plutôt ses mains derrière, comme ça. On ne voit pas les oreilles, là. Si on en voit une, son oreille droite.
Ouais, elle a les mains derrière la tête et
elle
se remplit les poumons d'air. Mais elle était.
Elle disait.
Même si sa santé était une suite d'opérations, etc., elle a eu une vie bien remplie. Et aussi, je sais pas, là, on est mal placé pour en parler, je sais pas. Non, elle a une vie bien remplie. Elle est partie aussi vivre en France dans les années 50. Parce qu'en fait, son mari était militaire et a été, je crois, le premier soldat américain blessé au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, lui, il a été connu pour ça. Il aurait voulu être comme elle, un grand écrivain, mais c'est elle qui lui a raflé le... qui avait du talent, quoi. Beaucoup de talent pour ça. Et donc, au début, il était à leur mariage, il était... convenu que chaque année lui écrirait et l'année d'après ce serait elle et ensuite ce serait lui, et en fait ça s'est pas du tout passé comme ça, vu qu'elle a eu du succès tout de suite. Elle s'est jamais arrêtée d'écrire,
oui.
Heureusement.
Donc c'était pour la matière théâtrale de votre prochain spectacle, donc qui aura lieu, rappelez-le,
alors le 19 et 20 février aux Subsistances, donc sur les quais de Saône, 2016. Vous pouvez nous écrire à notre adresse mail desordresdesesprits@gmail.com.
Très bien. Bah écoutez, je vous remercie tous les trois d'avoir
plaisir
d'avoir participé à cet entretien.
Merci.
Et donc j'invite tous les auditeurs à aller voir votre travail. On trouve sur internet quelques dossiers de spectacles. Et ça peut être intéressant d'aller y jeter un coup d'œil. Donc merci à vous.
Merci.
Ainsi s'achève notre première émission de Regard Intime, donc avec Bruno Beuglin et Romain et Gabriel Laval du Théâtre du Désordre des Esprits. C'était Raphaël pour Transistor.